VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Ouagadougou, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Cameroun, au moins 7 morts dans un double attentat suicide dimanche à Kolofata, dans l'extrême nord du pays, près de la frontière avec le Nigeria. Le point avec Idriss Fall.
Deux kamikazes se sont fait exploser à moins de 5 minutes d'intervalle. Ils se sont fait intercepter par un comité de vigilance alors qu'ils se dirigeaient vers le marché de Kolofata. Le 3 septembre, la même ville a été le théâtre d'un double attentat qui avait fait au moins 20 morts. Pourtant, les mesures de sécurité ont été renforcées avec l'interdiction du port du voile islamique intégral, fouilles, perquisitions et des arrestations pour prévenir de nouveaux attentats. Une force d'intervention multinationale d'environ 10 000 hommes a été mis en place. Son état-major est basé à N'Djamena, capitale du Tchad, cible elle aussi d'attentats. Le président nigérian Mahamadou Bouhari doit se rendre ce lundi à Paris pour une visite de 3 jours pour discuter notamment de questions de sécurité.
Tchad, la grève de l'Union nationale des étudiants tchadiens en cours depuis le 18 juillet dernier continue. La rentrée académique est prévue en principe demain, mardi 15 septembre, mais les étudiants réclament des concessions du gouvernement avant de reprendre les cours, nous dit notre correspondant à N'Djamena, André Kodmajingar.
L'Union nationale des étudiants tchadiens UNET revendique 6 mois d'arriéré de bourse pour les étudiants de 13 institutions d'enseignement supérieur et 9 mois pour les élèves des 4 écoles normales supérieures du Tchad. Un débrayage qui a occasionné une crise au sein du bureau national de l'UNET avec l'arrestation de son président pour trouble à l'ordre public, faux et usage de faux. Nadio Kaina a été libéré 24 jours plus tard pour infraction non constituée. Aujourd'hui, toutes les 17 sessions de l'UNET sont unies dans leur mouvement de revendication. Selon Bertrand Solo Gandiaï, secrétaire général national de l'UNET, le dossier est bloqué au ministère des Finances faute de liquidité. Pourtant, la nouvelle rentrée académique est prévue pour ce mardi 15 septembre, alors que l'année en cours n'est toujours pas validée. Pour le vice-président national de l'UNET, Barka Leroy Matkissam, les étudiants sont prêts à reprendre les cours afin de rattraper l'année inachevée si le gouvernement fait un geste en leur faveur.
Reprendre les cours aujourd'hui sans quelque chose, ça serait difficile pour les étudiants, pour ne pas dire impossible. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se prennent en charge par rapport à cette bourse. Aujourd'hui, si le gouvernement nous paye la bourse, même si ce n'est pas l'intégralité, je pense que les étudiants, au nom de l'intérêt supérieur de sauver l'année, seront prêts à accepter de reprendre avec les cours et continuer la revendication.
Pour le secrétaire exécutif de l'UNET section de N'Djamena, Guillaume Richard, la reprise des cours à l'université de N'Djamena est conditionnée par la satisfaction totale de leurs revendications.
Nous nous sommes allés en grève avant toutes les institutions universitaires. L'élément déclencheur de la grève à l'université de N'Djamena, ce n'est pas seulement la bourse. C'est d'abord le problème de l'électricité et de la restauration des facultés de Toukra. Donc si le gouvernement fait un geste et que le bureau national pense que c'est normal pour qu'on reprenne provisoirement pour sauver l'année, nous allons revenir et analyser cette proposition du bureau national et c'est la base qui va décider. Les étudiants ont étudié dans des conditions pénibles. Le complexe de Toukra, c'est un complexe moderne où quand il n'y a pas l'électricité, on n'a pas l'eau et l'accès aux toilettes, les salles et autres sont vraiment difficiles.
L'Union des syndicats du Tchad, UST, une centrale syndicale des travailleurs du secteur public, soutient les étudiants dans leurs revendications. Pour le gouvernement tchadien, la position de l'UST ne relève que de la pure récupération. Réaction du secrétaire général adjoint de l'UST, Gounou Vaima Gangfare.
Nous étant syndicats travaillant pour le social, on ne peut pas les ignorer complètement. Si nous demandons qu'on paye les bourses pour que l'université reprenne, nous sommes même pour la politique du chef de l'État. Qu'on pense à ces jeunes-là.
André Kodmajingar N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
Au Gabon, nouveau gouvernement à 12 mois des présidentielles. La surprise, nommé ministre de l'Agriculture, l'opposant Jean de Dieu Mukani Wango a décliné l'offre. Mais les autorités l'ont aussitôt remplacé par un autre opposant, Mathieu Mbumba Nziengi. Plus de détails avec notre correspondant à Libreville, Jean-Revis Dabani.
Le nouveau gouvernement comprend 41 membres contre 34 dans l'équipe sortante, avec toujours à sa tête le même premier ministre, Daniel Onaundo. La nouvelle équipe gouvernementale voit aussi l'arrivée de Paul Biogemba, un franc de l'estuaire où réside plus de la moitié de la population. Il s'est vu confier le tout nouveau poste de vice-premier ministre en charge de la santé. Le ministère de l'Intérieur, qui organise les élections, est confié à Paco Mubele Boubeya de l'ethnie Zébi, majoritaire dans le pays. patronne des patrons gabonais, Madeleine Baire, quitte le monde des affaires pour diriger désormais le ministère du Commerce. Elle fait partie des 11 femmes nommées au gouvernement. Mais coup de théâtre, deux ministres dont l'opposant Jean-Dédieu Moukani Ouangou, président en exercice du Front uni de l'opposition, a retiré son accord pour son entrée au gouvernement. Alain-Claude Bilibizé, nouveau porte-parole du gouvernement, a indiqué que l'opposant a été longuement consulté, comme d'autres acteurs de l'opposition, et a marqué son accord. Libreville, Jean-Revis Tabani, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Mali, un gendarme tué. Tel est le bilan de l'attaque du village de Wankoro dans la région de Mopti ce week-end. Notre correspondant à Mopti, Mamadou Boukoum, nous en dit plus.
Le village de Wankoro, dans le cercle de Bankas, à 3 km de la frontière burkinabé, a été attaqué ce samedi par 6 individus non identifiés à bord des motos. Ce sont 3 personnes qui sont d'abord rentrées dans le village pour inspecter les lieux. Un gendarme civil qui s'est revenu acheter des unités d'appel dans une boutique les a aperçus. L'agent a voulu savoir leur provenance et c'est là où ils l'ont tiré à bout portant et il perd immédiatement la vie. L'autre gendarme et les douaniers qui ont entendu le coup de feu se sont vite sauvés dans les champs de mille. Les 3 autres assaillants ont rejoint leurs camarades pour prendre la direction de la sous-préfecture. Selon des témoins, on entendait les assaillants scander Allahu Akbar, Dieu est grand, au moment de leur forfait. Tout laisse croire que c'est la marque des éléments du Front pour la libération de Massina. Cette attaque vient confirmer l'insécurité grandissante dans la région de Mopti. Mamadou Boukouma Mopti pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, parution de livres qui fait couler beaucoup d'encre. Il s'agit d'un ouvrage signé Valère Somme, ancien ministre de l'enseignement supérieur sous Thomas Sankara. Les nuits froides de décembre, l'exil ou la mort, retrace les tortures que l'auteur affirme avoir subies après l'assassinat de Thomas Sankara. Des précisions avec notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
Le livre « Les nuits froides de décembre, l'exil ou la mort » n'aurait pas vu le jour dans sa forme brute actuelle si le tortionnaire, comme le dit l'auteur, ne l'avait pas traité de menteur dans une sortie médiatique. Suivant les explications de l'auteur Valeur Sommet.
C'est les faits que je voulais dénoncer. Et j'étais en train de transformer ça en fiction en mettant des pseudonymes pour sensibiliser les gens sur les faits de torture. Et c'est là, le 18 juillet, le colonel Jean-Pierre Palme, mon tortionnaire, donc, fait une sortie à la Radio Liberté et me traite de menteur. Et que si je continue de professer de tels mensonges, il me met la tête de Ouagadougou. Donc c'est ce qui m'a décidé à publier ce livre tel quel. Il n'y a plus de changement de nom. Je le publie dans sa version de 1989.
De la panoplie des méthodes de torture, écoutons avec l'auteur Valère Somme celle dite « le perchoir du perroquet ».
C'était l'épreuve où les cris t'échappaient, hein, malgré ta volonté. Puisque les cordes étaient mouillées au préalable, on vous ligote les 2 poignets et puis les chevilles. On vous passe les bras autour de vos genoux et on passe une barre de fer par là. Puis on vous retourne maintenant comme une brochette et on vous pose dans l'espacement des 2 tables. Et puis ils vont s'asseoir attendre et la corde fait son effet. Ça serre. À un moment donné, c'est comme si on avait arrosé tes poignets d'essence et puis on a mis le feu. En ce moment, les tortionnaires savent que nous sommes au point. Viennent maintenant pour les questionnaires.
Nommément cité comme les grands tortionnaires, nous avons rencontré le colonel Jean-Pierre Palme pour sa version des faits.
J'étais tortionnaire. D'abord, le livre sort à une période où nous sommes à quelques jours de grandes échéances électorales. Bon, je pense que, donc, comme l'a dit quelqu'un, ce n'est pas fortuit. J'étais en France quand on m'a appelé pour me dire que Valère a tenté de s'évader. Ce monsieur qui dit qu'on l'a attaché, on l'a brûlé, il vomissait de sang, a eu la force de monter, percer un plafond, percer le toit, sauter, tomber dans la cour d'un gendarme, parce qu'il y a des familles qui logent dans la cour de la gendarmerie, qui l'a ramené encore dans la cellule. C'est un grand frère. Je le laisse avec sa conscience. Je ne sais pas ce qu'il recherche, mais je ne me laisse pas titiller longtemps sur cette histoire. Mais si on me dit que j'étais patron des gendarmes, oui, je suis responsable de tout ce qui a pu se faire au niveau de la gendarmerie. Je n'ai jamais fui mes responsabilités. Et tel qu'il décrit, quelles séquelles il a?
En réponse à l'existence des séquelles, voici ce que le torturé Valère Somme a dit.
Les séquelles sont plus profondes, c'est dans l'âme et dans la tête. Et c'est miraculeux, effectivement. J'ai dit dans mon livre que j'étais paralysé des 2 pieds et de la main droite. On m'a dit que c'est avec cette main que tu écris, tu ne vas plus jamais écrire. Donc je ne pouvais même pas t'attendre un bic. Il a fallu peut-être 6 mois pour que ma main fonctionne. Et de la nuque jusqu'aux fesses, toute la peau était partie. Mais aujourd'hui, si je me déshabille, ma peau est comme la peau d'un bébé. J'ai retrouvé l'usage de mes jambes et de ma main. Sinon, je pense que les vraies séquelles sont dans ma tête et dans mon âme. Une de mes séquelles de tortue suivie, c'est que j'ai perdu 2/3 de ma mémoire. Il y a des gens que je connaissais et quand je les vois aujourd'hui, je les reconnais pas.
Un des compagnons d'infortune de l'autre docteur Valère Soumé nous a confié la création très prochaine d'un comité de torturés du Front Populaire pour que justice leur soit faite. Zoubana Onogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Et pour terminer, à leur réunion aujourd'hui à Bruxelles sur l'afflux des demandeurs d'asile, les ministres de l'Intérieur des pays de l'Union européenne ont décidé, entre autres, de recourir à la force militaire contre les passeurs de migrants dans l'opération navale européenne en cours en Méditerranée. C'est ce qu'annonce l'AFP. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.